Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Oh, ce gentil bonjour tout doux.
Bonjour.
Oui, parce que le bonjour est tout doux parce que la dernière fois on a un petit peu saturé le truc, donc voilà, bah là comme
on
ça
écoute,
vient de refaire
écoute.
Avec mon rire. Bonjour, je sais même plus ce que je voulais dire. Du coup, et bonne nouvelle avant de présenter tout le monde qui est là, ça fait un an, hein, donc c'est quand même un petit événement. Il y aura des cadeaux après, mais d'abord bonjour Sam.
Bonjour Sandro. Mmh. Bonjour à tous.
Bonjour, on va finir par... Non, on finit par lui, il n'y a personne qui le connaît. Greg.
Alors bonjour à tous et bon anniversaire au podcast.
Et bonjour Seb.
Bonjour.
Seb,
bonjour Seb.
Ouais, on t'entend quasiment pas Seb.
Ah, je parle plus fort.
Voilà, il faut que tu parles plus fort.
Ouais, c'est bon, t'as mixé.
Je vais te mixer comme
mixe
un pro.
Bien.
Et on a un petit nouveau, David. Bonjour David.
Bonjour David.
Bonjour.
Ils sont où ton papa et ta maman?
Écoute, ils sont dans le public. Là, ils sont au fond, c'est le show et la grande blonde.
Voilà. Alors David va être amené à bon déjà à participer, hein, c'est déjà bien. Et puis
je te coupe, je propose qu'on rompe le suspense tout de suite. Il ne s'agit pas de David Cage.
Non,
j'ai la même coupe de cheveux.
Ouais, bah justement, on l'a appelé, on lui a demandé de venir pour ça justement.
J'ai la même coupe de cheveux, mais non, ce n'est c'est
pour être notre David Cage.
Et le même talent.
Ouais. Non, je n'ai pas cette prétention. Enfin, pas encore. Faudra encore 10 ans.
Donc avant que Sam m'interrompe, j'allais expliquer que tu allais intervenir, mais surtout tu allais être notre présentateur alternatif. Alors
exactement.
Aujourd'hui, c'est ta première, donc je prends encore le rôle de présentateur que j'aime tant. Et à partir de la prochaine fois, ça sera toi ou Yannick alternativement, suivant vos disponibilités. En fait, comme Yannick avait peu de disponibilités, voilà, on part là-dessus pour l'instant. Alors, avant de passer aux news habituelles, on va faire une petite séquence cadeau. Je ne sais pas ce que ça va donner en audio. Alors, je vais vous demander de décrire un maximum. Je ne sais pas si je vous donne chacun votre tour. Ouais, je vais vous donner chacun votre tour. Alors, Greg.
Alors, c'est une boîte.
Colle bien le
micro. Carré, je crois. Carré.
Ça va avec.
Ouais, tu as deux
boîtes. Ouais. Ouais, alors, tu commencerais bien, toi. Assistant micro.
Merci beaucoup.
C'est un début. Enfin, alors, j'ouvre.
Alors, c'est pas une boîte.
On fait quoi? On fait par synchro. Je
merci.
Commence.
Ouais,
commence,
ouais,
Greg,
vas-y, commence, Greg.
Alors, je commence donc pour les auditeurs par la petite boîte. Alors,
Alors, ça, je préviens, il y en a beaucoup qui viennent du Japon.
Voilà, alors là, ça vient du Japon. Alors, c'est magnifique. C'est une. Alors, je reconnais en tout cas la licence dont il.
La licence dont est issue, c'est magnifique.
C'est ce petit objet. Alors, je vais juste voir.
Oh, ça doit être un porte-clés,
ouais,
ou quelque chose comme ça.
Magnifique. Alors, voilà, la licence, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, comme il n'y a pas de vidéo, c'est donc Titanfall. Hein.
Non, pas Titanfall.
Mais
non, mais c'est un beau lapsus de joueur.
C'est beau. Attack on Titan.
Voilà, exactement. Attack
on Titan en français, ouais.
Donc, Greg est un grand fan.
Oui, j'adore ce. J'adore, enfin, j'ai un peu de chez, mais j'adore quand même à fond et c'est vachement cool.
Voilà, et comme au Japon, ils vendent un nombre incroyable de petits goodies. Je me suis dit, je ne peux pas rentrer sans.
Et c'est des séries phares actuellement, je pense.
Oui, là-bas, oui, alors oui, avec le truc avec le. Avec le professeur qui tue ses élèves. Enfin non, les élèves doivent tuer leur professeur. Là, une espèce de grand smiley comme ça. Assassin Classroom, ou je sais plus quoi. Un truc comme ça. Oui, ils sont tordus, ouais.
Ça parle bien avec Don Grand
Non, ça n'a pas. Ouh là là.
Un coffret Nabila.
Alors voilà, on fait le grand
écart. Alors là, on rentre dans le cadeau à la con.
Là, on fait le grand écart.
Qu'on sait pas où mettre.
Ça a l'air génial. Donc là, on passe sur la culture plus américaine. C'est donc à base de Halo.
Peut-être pas la boîte, c'est plus collector.
Alors ça vient d'Allemagne, hein, directement. C'est du.
Ah, c'est.
C'est du bon bac à sol d'allemand, ça. C'est du. Ça vend du rêve, ça.
Mais c'est une sorte de Lego.
De Lego Halo.
C'est du méga
bloc.
Il
faut la colle avec.
Mais c'est fantastique. Je me réjouis. On a déjà deux trois trucs Lego.
Tu le montes en direct pendant le podcast.
Ah bah là, c'est compliqué. Mais par contre, c'est avec grand plaisir que je vais mettre ça. Puis évidemment, on met les Lego sur nos toilettes, en fait. Donc j'avais voir, donc c'est une pour les connaisseurs, hein, parce qu'il en faut, c'est donc un poste de tir fixe Covenant, donc des postes de tir rose, et apparemment il y aura un Spartan avec jetpack et donc son fusil d'assaut de base et des caches de grenades et un grunt, hein, quand même dans la tour de mitrailleuse.
Donc voilà, tu n'as plus besoin de jouer à
Halo. Pack complet, en fait.
Tu n'as plus besoin de jouer à Halo.
Merci beaucoup.
Mais alors, avec plaisir. Ensuite peut-être
alors Seb. Moi c'est pas un paquet qui n'est pas carré, il est rectangle.
Ouais, toi t'as des cadeaux de papa.
J'ai des cadeaux de papa. Ouais. Alors c'est pas pour moi, c'est pour mon fils.
Alors il y en a un petit, mais il y a beaucoup. Il y a surtout, j'ai pensé à ton
Ça tombe bien, la bête ont un an.
Voilà. Ou ton prochain, parce que c'est quand même. Enfin, tu verras.
Ouh. Alors, j'ai reçu une cuillère Dragon Quest. Attention.
Hein,
mythique.
C'est, hein, tu vois.
J'adore ce petit bonhomme dont je me rappelle plus le nom, mais. Voilà. Une cuillère Mario.
Ah ouais. Attention.
Puis,
ça, je ne sais, ça doit être aussi un espèce de porte-clé.
Un petit porte-clé sur Dragon Quest. Ouais.
Toi, t'as été thématisé.
Top.
Hein,
moi, j'adore Dragon Quest, donc ça tombe bien.
Oui, je savais. C'est
et puis, des petites.
Ça, c'est des petits autocollants à coller
sur les frigos.
Des petits
autocollants ou des petits
magnets. Voilà, ouais, tu...
Aussi Dragon Quest. Parfait. Voilà. Merci beaucoup.
Mais, de rien, plaisir. Avec plaisir, monsieur.
C'est cool.
Joli.
À vous, Sam.
Très, très bien.
Alors, je vais essayer de vous parler tout en déballant d'une main où j'ai posé le micro, c'est une possibilité aussi.
Alors, attends, je te tiens ton micro. Ça
gentil,
m'en est
merci,
pas.
Oh, malade. Ouais. C'est un porte-clé aussi.
Oui, c'est comme ça. C'est comme celui de Greg, en fait.
Alors, je pense que quelqu'un s'est souvenu du dernier podcast où j'ai parlé avec amour de Danganronpa. Trigger Happy.
Havoc, oui, Danganronpa.
Je suis arrivé. Oh, il est trop bien. Je suis amoureux, c'est le petit ours, c'est le maître de l'école.
Ah, en plus de ça, t'as eu parce que t'aurais pu avoir d'autres choses.
J'aurais pu avoir d'autres choses.
C'est
oui,
ça
oui,
qui est...
c'est au bol, au Japon, ils sont forts pour ça.
C'est trop fort, je l'aime profondément.
C'est le proviseur.
C'est le proviseur,
c'est magnifique.
Il est
grandiose.
Super, il est superbe. Merci infiniment.
Et tu as encore.
J'ai encore un autre rectangulaire. Est-ce que c'est aussi un truc à l'eau? Non, je pense pas.
C'est non,
pas
non,
petit.
C'est pas.
Ça fait du bruit. Merci pour le micro.
Ouais.
Oh, ça c'est pas très japonais ça.
On
non,
voit
pas
ce que c'est, ça montre, montre.
Greg et toi, vous avez eu des jeux, des trucs qui venaient d'Allemagne aussi. C'est pour ça que...
Il s'agit d'un petit jeu qui m'a beaucoup touché. Enfin, un jeu, pas du tout un visual novel, ça s'appelle To the Moon. J'ai joué pour la version Steam.
Et je te prierai de regarder derrière la boîte.
Et là, Monsieur Sandro.
J'espère que tu aimes l'allemand.
A réussi à me trouver.
Qui n'aime pas.
A réussi à me trouver la version boîte en allemand.
En allemand. Ça doit être les seuls qui ont une version
est-ce
boîte.
Est-ce que le jeu est en allemand aussi ça.
Alors je sais pas, ça tu verras.
Ça
verra, mais
bon, de toute façon.
Voilà, ça m'a fait.
Mais c'est cool, c'est magnifique.
Ça me touche beaucoup. Vraiment.
Voilà.
Si jamais je vous recommande chaudement, c'est un tout petit jeu très court avec une histoire juste fantastique et extrêmement émouvante.
Ouais.
To the Moon.
Même moi j'ai aimé.
Même toi.
Même moi j'ai aimé.
Même
donc,
toi.
Même si c'est pas vraiment un jeu, j'ai aimé.
Ouais.
Donc,
merci Sandro.
Et puis le petit nouveau, j'ai ramené quand même un petit truc, même s'il a rien branlé depuis un an.
C'est gentil. Ouais, moi je pense pas que. Ouais, c'est ça.
Alors c'est un petit
c'est,
paquet.
Ça,
mais
ça,
je sais pas, ça m'a fait penser à toi. Ça m'a fait penser à toi.
Mais merci beaucoup.
Tu verras, je vais t'expliquer ce qui est marqué dessus parce que sinon ça va être. En fait, dessus c'est marqué cette fois j'y arrive. Tu vas voir.
C'est sympa, merci. D'accord, ok. Cette fois, j'y arrive.
Tu vois ce qu'il essaye de faire?
Un Kamehameha. D'accord, ok. Je vais me balader avec ça.
Je trouvais cool. C'est un espèce de salaryman qui essaye de
oui,
faire un Kamehameha.
Oui, oui,
je trouvais ça plutôt cool.
Mais c'est très joli. Merci, merci.
Bon, alors voilà, c'était juste pour marquer le coup de l'année en fait, et pour dire que voilà, c'était une bonne année où j'ai apprécié faire des podcasts. C'était vraiment, je pense qu'on a bien ri. Donc voilà.
Et ce qui est génial, c'est que ça se trouve avec Sam et puis nos porte-clés aléatoires, on est tombé sur les trucs ultra collector.
C'est
ça,
exactement.
Sur des gros gadgets. Voilà,
c'est une chance sur 8.
Monsieur. T'es classe.
Alors on va pouvoir passer à nos
merci
news.
Beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On va pouvoir passer à nos news. Alors on commence peut-être avec Greg qui est venu nous parler de ça même à la télé la semaine dernière brièvement mais quand même au téléjournal par rapport au fait que Facebook a racheté l'Oculus Rift. Il y a eu énormément de réactions très très diverses et contrastées dans le monde du jeu vidéo. Greg peut-être.
Alors bon, c'est un peu particulier parce que au final personnellement à court terme je me sentais concerné ni par Facebook ni par l'Oculus Rift. Mais après, c'est vrai que c'est moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est en fait les acteurs, enfin Facebook, que Facebook se positionne par rapport à l'Oculus Rift.
Est-ce qu'on expliquerait c'est... juste ce que c'est l'Oculus
oui,
Rift
on va
pour les gens qui savent
vite
pas.
Vite résumé, effectivement, c'est vrai que c'est un cas de réalité virtuelle. C'est un peu le retour de la réalité virtuelle après la période, la traversée du désert des années 2000, on va dire, quand c'était vraiment tendance des années 90, où tout le monde jurait pas que par ça. Et puis qu'on s'est rendu compte que certainement les machines de l'époque n'étaient pas capables de gérer une telle technologie. Et du coup, Oculus Rift, c'est en fait le retour d'un projet de casque de réalité virtuelle qui est arrivé en 2009, je crois, qui a été présenté la première fois par Oculus VR.
Ouais, quelque chose comme ça, il me semble. Ouais. Ouais,
qui est donc Oculus VR, qui était une petite start-up. Alors maintenant, vous allez voir, il suffit d'aller sur net, vous voyez toute la légende, enfin, entre guillemets, un contour, la création d'Oculus Rift et d'un de ses créateurs qui a 21 ans maintenant, qui était fan de Virtual Boy, qui n'a rien à voir avec la réalité virtuelle. Enfin bref. Et voilà, il y a tout un mythe qui est en train de se construire autour de ça. Enfin bref, c'est un casque de réalité virtuelle, donc c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de vous, enfin de, comment dire, de vous immerger dans un jeu avec une reconnaissance spatiale, avec des mouvements de tête. Et puis donc cette technologie qui est très prometteuse, qui a été kickstartée pour des sommes pas record mais très très élevées, je crois qu'ils demandaient 250 000 dollars au départ, ils en ont fini avec plusieurs millions. Eh bien, cette société qui a déjà envoyé plusieurs prototypes au premier backer de Kickstarter a été rachetée effectivement pour 2 milliards par Facebook, qui tout de suite a voulu rassurer tout le monde en disant « Oui, non, non, mais on est bien conscient que c'est un projet de jeu vidéo avant tout, on veut juste leur donner plus de moyens, on va les pousser à fond, on va favoriser le développement de jeux dessus, les partenariats, les trucs comme ça. » Mais après, effectivement, on peut commencer à imaginer des choses.
Moi, j'imagine Farmville sur Oculus VR.
Voilà, alors, il y a des gifs.
Oui, des cochons volants comme ça qui vous apparaissent à droite, à gauche de l'écran en 3D.
Oui, alors tout à fait, il y a des gifs déjà morts de rire où un mec qui joue un des projets d'horreur ou en tout cas d'ambiance qui était présenté sur Oculus Rift, puis tu vois, il se balade comme ça, puis d'un coup, il y a une invitation qui lui saute à la gueule et puis c'est la flip totale.
Alors, moi, j'ai vu quelque part que Sony allait sortir son casque de réalité virtuelle aussi. Est-ce que c'est pas aussi peut-être un moyen de trouver des fonds rapidement parce que finalement là ça commence à être la course parce que Sony a les moyens.
Sony n'a pas les moyens. Ouais, pour moi c'est ça le truc, non, c'est que je peux comprendre ta logique parce que c'est vrai que au niveau du calendrier, Sony venait d'annoncer, alors c'était, ça faisait un moment que c'était en rumeur, mais ils venaient d'annoncer leur projet Morpheus à la GDC, ouais. Qui est apparemment plutôt correct d'après les premiers échos. Donc en tout cas, c'est un signe que la technologie est dans la tendance lourde de l'industrie. Mais je pense que Oculus, honnêtement, leur projet était déjà technologiquement, au stade où ils en étaient, était déjà plus avancé que celui de Sony apparemment.
Puis ils ont, Carmack, ils ont des choses qui fonctionnent, surtout ouais. L'Oculus Rift, il y a des gens qui l'ont,
voilà.
On peut le commander, on peut programmer dessus, on peut y jouer. Sony a... Je pense, rien montré. Enfin, ils ont montré un casque et puis je crois deux démos techno que quelques journalistes ont vu, mais il y a rien.
En tout cas, c'est. Enfin, mais je pense même qu'Oculus VR, donc les concepteurs d'Oculus Rift, je pense même qu'ils n'avaient même pas à se positionner vis-à-vis de Sony parce qu'ils n'étaient pas liés à un constructeur, tu vois. Donc d'une certaine façon, ils étaient juste liés à une machine qui est le PC, qui est complètement ouverte. Donc eux, leur technologie était prête, était bonne. Je pense même qu'on apprendra peut-être plus tard que d'autres gros groupes étaient peut-être intéressés pour les racheter. Maintenant, ce qui me surprend un peu, c'est que ce soit Facebook qui a remporté le truc. Je suis assez étonné. Parce que voilà,
c'est Facebook. Je suis surpris aussi parce que c'est vraiment un immense pari pour eux, il me semble, parce qu'ils n'ont jamais vraiment mis de pied là-dedans, que c'est quelque chose... Ça donne un peu l'impression qu'ils ont fait ça un petit peu au bonheur à la chance. Ça, c'est à la mode, ça peut être bien. Enfin, c'est l'impression qu'on a, en tout cas, que j'ai en lu 2-3 news, vu un peu ce qui s'est passé.
Ouais, c'est vrai. Alors voilà, comme on disait avant, c'est que là, il parle de jeux vidéo pour l'instant. Alors après, Zuckerberg a déjà un peu évoqué des fantasmes, suivre des cours à l'université à distance en étant dans la salle, réserver une place dans un stade de foot et puis le suivre à distance. Avec, voilà, il est là-dedans. Alors après, moi, ce que je trouve assez drôle et assez pathétique au final, c'est les communiqués respectifs et de Facebook et des membres du directoire de Oculus VR qui disent « Oui, non, mais vous voyez, enfin, qui essaient de justifier ce rapprochement en disant « Oui, non, non, vous savez, nous, on est pour la communication, on est pour comme Facebook, on est pour le rapprochement des gens et tout », alors que Oculus Rift, par définition, c'est pas là-dedans, l'ADN d'Oculus Rift, c'est pas dans le rapprochement des gens, enfin, il y a quelque chose qui sonne assez faux, ça sonne surtout pognon du business, ça peut amener à quelque chose de correct, effectivement, quelque chose de bon, peut-être, je sais pas, ou alors Facebook va peut-être... Mais c'est vrai que Facebook, au niveau du jeu pur, c'est ça le problème, c'est que c'est une collision en deux conceptions du jeu vidéo. Facebook, le pan jeu vidéo de Facebook, c'est tout ce qui
exerce. Voilà,
les joueurs, c'est les mêmes joueurs qui avaient peut-être financé l'Oculus Rift à la base en se disant, ça c'est à nous, c'est un projet qui est pour les joueurs, qui est pour faire
avancer les jeux
vidéo.
Qui a l'opposé de Facebook.
Exactement. Donc c'est vrai que c'est là, wait and see comme on dit, comme dirait l'autre, mais...
Le casque est sorti, censé sortir cette année, il me semble. C'est en tout cas ce qu'ils ont annoncé comme estimation. Ce sera intéressant de voir un petit peu s'il y a des reports, des revirements, des choses qui vont être annoncées dans les prochains temps.
Ouais. On verra. Et le prix aussi sera intéressant de voir parce que c'est vrai que là, Facebook, ils ont le pouvoir de le vendre à perte.
C'est ça, peut-être.
Bah, déjà, le prix était relativement correct. Hein. Le prix des protos est à 300€, je crois, pour avoir un prototype. Donc c'est pas cher, mais c'est pas non plus pour une techno comme ça, c'est pas excessif. J'ai pas l'impression.
Oh, ça coûte moins cher qu'une Xbox One. Hein.
Oui, effectivement.
Ah, Seb.
C'est clair.
Ok.
Je vois pas de quoi tu parles. Pour jouer à Titanfall seulement en plus.
Oui, bien sûr. Ouais. Alors que t'as déjà un PC.
Non, c'est pas vrai.
Alors, justement, tu m'as introduit la suite. tu m'as introduit, on voulait dire un mot sur un article qu'on est plusieurs à avoir lu. Sur Gamekult, si jamais il y a le lien qui est sur notre Facebook, je l'ai posté hier soir, sur Titanfall et les histoires de Tickrate, qui sont quelque chose qui sont assez mal connus en fait. On connaît plutôt les histoires de ping, où on a un ping bas, et ben, du coup on risque d'avoir les ennemis qui sautent et qui disparaissent, etc. Et puis ça nique une partie. Mais on ne connaissait pas le tick rate. Est-ce que quelqu'un veut expliquer un peu en gros le tick rate? Oh là, tout le monde se regarde, genre les boules. Non, mais c'est parce qu'effectivement, Sam, c'est extrêmement technique. Mais il y a une histoire, de réactualisation.
Il y a moyen de résumer.
Ouais, vas-y alors, résume Sam.
Alors, résumons. Ce qui est intéressant, juste pour continuer la petite introduction, c'est que le FPS, donc les images par seconde, et le ping, ça a toujours été des trucs hyper importants dans tous les jeux, on va dire rapides, type FPS, et plutôt rapide. On a besoin vraiment d'avoir un ping bas pour avoir un temps de réaction au serveur bas, et pas commencer à laguer. Et puis l'image par seconde, c'est pour aussi avoir une image qui n'est pas saccadée à l'écran. Ça, c'est les deux choses que tout le monde... Beaucoup de gens connaissent, en tout cas, il me semble. Et là, moi, je ne connaissais pas le tick rate. En fait, c'est juste, si j'ai bien compris, le temps de retour et le temps de calcul du serveur et le temps qu'il met pour assimiler les informations qui sont envoyées par les différentes machines et pour les renvoyer aux joueurs. Si ça va comme ça, c'est bien résumé ?
Ouais, globalement.
En gros,
c'est
ça. C'est quelque chose qui est très méconnu, en tout cas, moi, je ne connaissais pas du tout. Et là, cet article permet un petit peu de faire la lumière sur ce qui se passe concrètement, de manière technique, entre ces échanges d'informations entre machines et ce serveur qui chapeaute un peu le tout.
Parce que le problème dans Titanfall, ce qui est justement, c'est que beaucoup de monde a pu remarquer si on tire, des fois on a l'impression qu'on tire 5 balles sur un ennemi et puis il tombe pas, et lui il nous en met 2 et on est mort. Et que justement, lui il essaye d'expliquer ce phénomène parce qu'en réalité, on se rend compte lors du replay que de la kill cam, que en fait non, on lui a peut-être mis que 1 ou 2 balles et que lui il nous en a mis 3. Mais c'est justement parce que le transfert d'informations s'était pas fait et on n'avait pas la réalité de ce qui s'est passé vraiment. Et que ça, c'est problématique.
C'est un
jeu où il faut viser. Ouais.
C'est un problème hardware du serveur qui n'est pas assez puissant pour gérer ça, ou c'est le software qu'il y a dessus qui gère mal les informations?
Non, c'est un problème de serveur en fait. C'est un problème. Après, il y a des histoires très compliquées de programmation.
Ouais,
mais globalement, le seul moyen dans le cas de Titanfall, parce que Titanfall a beaucoup de données à faire transiter en même temps. Suivant les jeux, s'ils ont des gros effets graphiques, des gros effets de physique, des trucs comme ça, il y aura plus ou moins beaucoup de paquets de données, des gros paquets de données à transférer. Et ceux de Titanfall sont particulièrement gros. Dû entre autres au fait qu'il utilisait le moteur source, qui est pas à l'aise avec les grands espaces. Et du coup, le fait est que la seule moyen pour l'améliorer, ça serait d'autoriser des plus grands transferts de données. Mais le problème, c'est que ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher pour héberger à l'hébergement des serveurs, à IE, etc. Et ça serait je lui disais quoi, ça quintuplerait ou ça décuplerait les coûts, et donc du coup c'est pas envisageable, mais l'article j'ai trouvé vraiment intéressant.
Mais c'est toujours étonnant qu'on parle de ça puis qu'on se dit que en même temps, en parallèle, on veut nous faire jouer sur du streaming, ça arrivera certainement moins un autre, mais enfin je dis, il y a toujours ce truc assez
oui c'est vrai, c'est assez drôle,
on est
confronté
à ça. Alors là on est dans du jeu online, alors oui bien sûr le jeu online évolue, là il y a des titans, il y a plein de trucs, il y a des maps, il y a des mouvements très rapides. Mais en même temps, voilà, ça reste la même formule qu'au début, alors qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes, effectivement, avec Quake et Counter-Strike.
Et moi, c'est le premier jeu, de par sa rapidité, c'est le premier jeu où j'ai vraiment conscience que ce que je vois à mon écran et ce que je fais ne correspond pas à la version, on va dire, serveur. Donc, ce que je vois à l'écran, non, c'est une version un peu altérée, retard par rapport à ce qui se passe réellement. Ouais. Et ça, j'en avais conscience... inconsciemment, si je peux dire, pour d'autres jeux multi, mais vous savez beaucoup mon importance. Et là, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est vraiment très frustrant. On se dit, mais
finalement, l'autre sur PC, quoi, mais aussi sur One, c'est la même chose.
C'est les deux, je crois. C'est les deux.
Moi, des fois, j'ai des interruptions de connexion pendant la partie. Bon, ça dure deux secondes, mais c'est hyper chiant, quoi.
Ah bon, alors ça, c'est plus lié à ta connexion. Non, non, alors ça, c'est pas vraiment par exemple, pas de problème.
D'accord.
Mais c'est quelque chose qui ai pas mal joué aux différentes itérations de Call of Duty. C'est quelque chose qui existait vraiment déjà dans Call of Duty. T'avais des killcams, tu voyais, effectivement, tu disais, mais ce mec, je lui ai mis. Et à chaque fois, tu dis, ah, ça doit être ma connexion, ou ça doit être la sienne, ou ça doit être le ping, ou machin. Mais tu pensais pas, effectivement, à ça, alors que c'est exactement le même phénomène. Maintenant, c'est ce qu'on disait un petit peu avant. C'est peut-être dans Titanfall, il y a la rapidité de l'action, il y a ce côté à 360 degrés qui renforce cet effet-là. Et puis aussi, peut-être qu'on. On en parlait avant, c'est peut-être aussi que Titanfall, comme c'est du 6 contre 6, il y a ce côté, tout à coup, cet événement de rencontrer un autre pilote, de se battre contre un autre pilote, qui voilà, qui des fois n'arrive pas 200 fois par partie, comme dans un Call of Duty, ça peut arriver. Tout à coup, ça centralise beaucoup de dramaturgie au niveau du mode multijoueur, et puis du coup, on le ressent d'autant plus la frustration de ça.
Je dirais surtout parce qu'on a envie que les règles soient les mêmes pour tout le monde, et que ce soit clair. Et là, c'est pas toujours vraiment le cas.
Ouais. Mais c'est le cas, mais c'était déjà le cas dans d'autres jeux. Tu vois, dans Call of Duty, c'était pareil. Il y a vraiment des jeux qui respectent à fond ce tier rate. Il y en a assez peu au final, je crois. En tout cas, dans les jeux récents.
Bah là, ils font Battlefield a le même problème. Après, ils font un comparo avec justement Quake, etc., qui eux sont un peu plus. Bah,
l'exemple qu'ils donnaient, c'était Counter-Strike, qui était beaucoup plus.
Counter-Strike Global Offensive, effectivement, qui est un bon exemple.
Et ça fait peu. Bon, c'était le défaut de l'article d'ailleurs. L'article est très bien, mais ça lui a été beaucoup reproché de ne pas parler de Call of Duty, quoi. Mm-hmm. Pourquoi ne pas parler de Call of Duty? Pourquoi pas parler d'Halo?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est étrange.
Il y a juste Battlefield. Et Battlefield, c'est encore un cas part, c'est aussi un jeu PC. Donc au final, il y a Titanfall qui est là, mais c'est vrai qu'il y a le chaînon manquant un peu Call of Duty qui est pas nommé.
Oui, sachant que c'est les mêmes de Call of Duty, de voir s'il y avait une comparaison intéressante à faire. Est-ce que ça s'était pas amélioré ou est-ce que effectivement. Bon, dernière news. On voulait revenir brièvement sur mon coup de gueule sur le site, sur la RTS. Sur la qualité assez affligeante des interventions télé en Suisse par rapport à justement nos amis français ou allemands. Bon, après moi j'ai déjà donné mon avis assez fortement, donc je pense que je vais pas réempiler, mais je vais vous demander peut-être à vous comment vous percevez la chose par rapport à moi, voilà, justement par rapport à ce que j'ai dit, et puis comment vous percevez en général.
Moi, je t'ai trouvé très, très vindicatif et très, très positionné par rapport à ça. Et je pense que c'est une bonne chose parce que tu as beaucoup de connaissances aussi là-dessus. Moi, j'ai quand même été partagé sur le fait, bon, pas pour l'émission de la RTS de mise au point que je trouvais vraiment plus que limite, mais je l'ai partagé plus sur un article qui est sorti aussi dans l'hebdo, où j'ai trouvé finalement que le fait que la presse généraliste commence à en parler de manière quand même moins diabolisante qu'avant, c'était quand même plutôt un pas en avant. C'est pas parfait. C'est loin d'être parfait, il y a du chemin, mais c'est un pas dans la bonne direction quand même. Donc moi, j'ai plutôt vu le verre d'eau à moitié plein qu'à moitié vide, comme toi peut-être.
Ouais, moi, ça, l'hebdo m'a aussi énervé parce que j'ai trouvé. Enfin, même si c'était positif, ça ressemble à un mec qui a googlé pourquoi les jeux vidéo c'est bien, et puis qui a sorti 2-3 trucs dans le désordre, un peu n'importe comment, et il n'y a quasi rien qui tient debout. Donc qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre, je trouve ça pas intéressant. Enfin, je pense que le jeu vidéo a plein de points positifs, plein de points négatifs, on peut discuter de tout, comme le fait Canard PC d'ailleurs en parlant de l'addiction. Il n'y a rien qui est parfait, mais angélisé comme diabolisé. Quand c'est mal documenté, c'est ridicule dans les deux cas, en fait, pour moi. Voilà, c'est simplement ça. C'est, encore une fois, demandons à des gens qui savent de quoi ils parlent. Quand on parle de jeux vidéo, arrêtons de demander à monsieur tout le monde d'intervenir sur des sujets comme ça. De toute façon, il ne touche pas le POC. Enfin, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, moi, c'est ça qui m'énerve.
Donc, tu préférais que personne n'en parle ?
Je préférais qu'ils n'en parlent pas. Ouais.
D'accord.
Clairement. Alors, mieux vaut pas en parler que d'en parler comme ça. C'est méprisant d'en parler comme ça. Ça sous-entend que c'est un sous-sujet, en fait. On oserait.
Ouais, mais on a je suis d'accord avec toi, hein, Sandro, vraiment à 100%. Le seul truc, c'est que en même temps, il y a dans le journalisme, je pense qu'il y a plein de sujets qui sont traités exactement de la même manière, sauf qu'on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas les connaissances. Et en même temps, il y a peut-être des fois, ça nous influence, ça modifie un peu notre regard sur telle ou telle thématique pour le meilleur. Voilà, puis après, on peut aller chercher plus loin, fouiller plus loin. C'est là où je rejoins un peu Sam quand même, c'est dire que. Je suis d'accord. Moi, je me sens personnellement, en tant que connaisseur, entre guillemets, je me sens personnellement insulté. Ça m'énerve beaucoup de lire ce genre de choses. Et dans l'absolu, si ça regardait que moi, je dirais effectivement non, rien à foutre. Vous feriez mieux de rien faire que de faire autant de la merde. Maintenant, si je prends un petit peu de recul, je me dis peut-être quand même que c'est pas forcément un mal par rapport à, voilà, au regard que les gens ont sur le jeu vidéo actuellement, même s'il il a beaucoup changé. Mais ça fait jamais de mal d'avoir un regard un peu positif, même si c'est très mal fait et très mal documenté. Mmh. C'est con ce que je vais dire, mais si ça peut suffire à une ménagère de laisser un peu plus tranquille son gamin...
C'est un peu l'image que j'avais en tête aussi, si ça permet de rendre le sujet moins sensible et que petit à petit, les gens puissent plus facilement en discuter, entre passionnés personnes qui connaissent rien.
Mais par contre, rapidement, adressez-vous à des, vite, adressez-vous à des gens qui connaissent quoi.
Ouais. Adressez-vous à Sandro, il est très bien.
Non, mais enfin, Sandro, Greg, ou peu importe, enfin, il y a plein de monde qui, je rencontre aussi plein de monde tous les jours, entre autres dans une rencontre que j'ai avec des développeurs de la région, qui sont plein de gens intelligents qui sauraient tout à fait aussi intervenir. Mais là, c'est juste, c'est par un manque de. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est que même si on encourage dans le bon sens, quand on met, quand on parle de Candy Crush pendant une page sur 5 ou 6, et puis qu'on dit que c'est super. Moi je pense que là on fait on fait plus de mal que de bien.
Mais je pense qu'au bout d'un moment faut intéresser les gens, et malheureusement ce qui intéresse les gens
c'est
Candy Crush, et c'est des gens qui connaissent pas le jeu vidéo.
C'est vrai.
Et petit à petit, ces gens qui connaissent pas le jeu vidéo vont commencer par Candy Crush, comme nous on a commencé avec les seuls jeux qu'on nous proposait. Alors on a de la chance, c'était des bons jeux. Je pense à Tetris ou à Sonic, Mario, c'était des bons jeux. Mais je veux dire, on aurait eu Candy Crush, on aurait commencé par Candy Crush. Et ces gens-là, ils vont commencer par ça, petit à petit, ils vont se rendre compte que c'est pas bon. Je veux dire, si tu t'intéresses à quelque chose, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que c'est pas bon. Et tu vas t'intéresser à autre chose. Et le fait que, et c'est là où je rejoins Sam, c'est le fait que des médias parlent de ces jeux comme tu l'as dit, en les angélisant, déjà on dit plus que le jeu vidéo c'est le mal.
Ouais.
C'est déjà un pas, mine de rien. Et le fait qu'on va dire aux gens, regardez, c'est pas si mal que ça le jeu vidéo, même si c'est, on est d'accord, des jeux de merde qu'on parle, c'est un début. Tous les médias, tous les médias artistiques ont commencé comme ça. La première fois qu'une BD est sortie, on a dit mais c'est, il y a des images, c'est pas beau, c'est pour les débiles, c'est pour ceux qui savent pas lire. Et voilà. Et aujourd'hui, la bande dessinée, est-ce qu'elle est.
Je suis parfaitement d'accord, mais la seule chose que voilà, c'est que ça fait rager parce que nous on a 3 ou 4 ans de retard sur les pays qui nous entourent.
Mais
et que tu te dis, réveillez-vous les gars, il y a des choses vraiment intéressantes qui
sont
ailleurs.
La Suisse a beaucoup de temps de retard sur beaucoup d'autres choses, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans plein d'autres domaines, et le jeu vidéo malheureusement fait partie de ce retard. Et
on n'a pas de lobby en Suisse, il n'y a pas de lobby de jeux vidéo dans les autres pays il y a des lobbies très forts qui peuvent pousser
nous ils sont un peu light effectivement.
Mais après effectivement pour les personnes qui nous écoutent c'est vrai que ces jeux comme Candy Crush, tout ça, c'est une catastrophe.
Oui, nous, on en a beaucoup parlé ici.
J'ai pu entendre, effectivement. Moi, j'arrive, je suis nouveau, donc j'ai envie de crier au scandale, mais c'est vrai que là, ma foi. C'est ça. Mais je pense que c'est une bonne chose que les médias en parlent, même si vous le prenez mal parce que justement.
Tu peux me tutoyer.
Ouais, c'est vrai. Je peux comprendre effectivement parce que vous êtes à fond là-dedans et du coup je comprends à 100% que quand on essaye de parler de ta passion, de ton métier et puis qu'on chie dessus quoi finalement, ça fait mal. Mais en même temps, ça va peut-être commencer comme ça, mais ça finira pas comme ça.
Ah bah non, ça c'est clair, effectivement, ça on sait que ça finira pas comme ça. Les gens vont petit à petit
vont se rendre compte que là c'est pas bon quoi. Ils vont se rattraper sur des bons jeux.
Ouais.
Ça fait penser à une phrase de fin du documentaire Free to Play de Valve qui disait que en gros toutes ces générations de joueurs qu'on a un peu bavé pour faire revendiquer leur passion, etc., tous ces gens auront des enfants et qui vont être éduqués d'une autre manière. Ça ouais. rejoint un petit peu. Enfin, ça va prendre du temps, mais ça va changer.
Est-ce que les gens qui jouent à Candy Crush ou ce genre de jeu sont vraiment des joueurs de jeux vidéo, comme entre guillemets, on aimerait nous les voir et autres, parce que c'est plus un divertissement. De gens qui jouent à ça à leur pause sur les toilettes ou j'en
sais
rien. Ah
bah c'est un passe-temps pour moi.
Voilà,
ça, c'est, pas...
c'est exactement ça. Donc
jouer au solitaire sur PC, est-ce que c'est...
Voilà, exactement. Donc est-ce que ça, ouais. je pense qu'ils parlent du même entre guillemets style de jeu vidéo que nous.
Totalement.
Ou pas enfin, et à...
Non, totalement plutôt voilà. que solitaire comme ouais, donc, c'est pas du jeu en tant que tel, c'est ce que voilà. je disais avec David. Pour moi, c'est des passe-temps. C'est
ouais,
pour se vider la tête et puis pour voilà, pour
quand tu sais pas quoi faire, t'attends le train ou machin, tu joues à ça quoi.
Je pense que pour beaucoup, c'est effectivement des passe-temps, quelque chose de, qui n'a aucune valeur plus que ça. Après, je pense qu'il y a quand même une partie de ces gens qui sont aussi des joueurs potentiels, qui vont peut-être s'intéresser.
Ah oui, qui vont peut-être aller plus loin, je te dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'à la base, le gars se dit, enfin, qui aime les jeux vidéo, il ne va pas se dire « Ouais, genre, c'est toi, c'est ça, base, c'est différent. » quoi.
Ouais. Ok. Ben, on clôture là-dessus. On fait une petite pause musicale et puis on revient pour les jeux du mois. Ouais. On va commencer par pas moi en tout cas, parce que j'y ai peu joué par rapport à vous, mais on va parler un petit peu de l'immanquable ce mois-ci, Dark Souls 2. Qui veut commencer les hostilités ?
J'ai l'honneur de commencer les hostilités. Mais pose-moi les questions, qu'est-ce que c'est Dark Souls 2 ?
Ah,
qu'est-ce que c'est que Dark Souls. Ouais, je vais te faire l'insulte de te demander qu'est-ce que c'est Dark Souls 2.
Donc c'est la suite de Dark Souls, premier du nom, qui est sorti en 2011, si je dis pas de bêtises.
Ouais, quelque chose comme ça.
Quelque chose comme ça, qui lui-même est très, très fortement inspiré de Demon's Souls, qui a créé une grande surprise. Je vais pas faire un résumé de toute la saga, etc. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, je trouvais, en tout cas côté médiatique et de l'attente des joueurs, c'est que ce Dark Souls 2, contrairement aux deux autres, était quand même extrêmement attendu. Disons que l'aura qui s'est gentiment créée avec les deux premiers, grâce aux deux premiers, ben... elle a un petit peu touché le plus grand public, en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se disent « Mais c'est quoi ce jeu ?» etc. Tout le monde en parle. « Qu'est-ce que c'est que ce jeu ?» De fou. On peut le dire. Donc, en fait, il était vraiment attendu au tournant par les fans, comme moi, en fait. Ça a été tardivement. Et aussi, tout le monde se posait la question est-ce qu'il va réussir à être plus accessible, plus facile pour les nouveaux joueurs. Alors, ça, j'ai personnellement pas de réponse du tout, parce que moi je connaissais déjà cet univers, donc c'est vrai que ça m'a énormément facilité les choses de connaître un petit peu les mécaniques qui sont quand même pas forcément extrêmement complexes, mais qui sont très obtuses. Très obtus, pardon. C'est extrêmement complexe de comprendre comment ça fonctionne. Il y a plein de choses qui sont pas bien dites, enfin dites de manière un peu cryptique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut découvrir tout seul. Et le fait d'avoir joué au précédent, au moins, bon, c'est ok, ça marche comme ça, ça marche comme ça, cette stat là elle sert à ça, et puis on peut partir directement. Bon, on va rompre le suspense tout de suite. Moi, j'ai passé 50 heures de jeu dessus déjà. J'ai pas fini. C'est plus ou moins le temps que j'ai mis pour finir le premier. Et j'ai trouvé que c'était une franche réussite. Vraiment. C'était un immense hommage. Enfin, hommage. Je sais pas parler d'hommage après si peu de temps, mais vraiment que tous les joueurs, les fans ont vraiment été soignés par cette suite de jeu. Les nouveautés sont finalement très bien pensées, qu'il y a parmi les défauts, il y en a quand même quelques-uns, il faut les citer. Moi, je trouvais que le level design était un peu moins fou et un peu moins surprenant que les deux premiers, enfin surtout que le Dark Souls. Pour moi, c'est un peu le gros défaut, pas le gros défaut, voilà. Merci Greg. mais sinon, au niveau des mécaniques, au niveau du rythme, au niveau des rencontres, je trouve qu'il arrive très bien à se renouveler, qu'il y a toujours une ambiance qui est aussi folle, qui est oppressante, et qui permet en même temps de vraiment de jubiler, d'avoir des moments de pure adrénaline qui se diffusent de partout quand tu bats un boss. Moi, j'ai vraiment ressenti ça, alors que ça m'arrive dans très peu de jeux. Voilà, une petite expérience comme ça de Dark Souls 2 jusqu'à maintenant, en tout cas.
Greg ?
Alors moi j'ai un peu moins joué que Sam, je vais être à 25 heures, 30 heures à peu près. Alors je le rejoins sur plein de points. Je dirais que le coût de l'accessibilité, peut-être, et c'est marrant, c'est là où on voit la différence quand les Japonais parlent d'accessibilité avec les Occidentaux, c'est que non, il n'y a pas de tuto, il y a un tuto, mais enfin, voilà, après dans le jeu on ne va pas vous venir par la main. Par contre, c'est vrai que le jeu est un peu plus explicite sur les choses importantes comme les compétences, les caractéristiques, ce que ça va influencer dans la feuille de personnage qui est hyper complexe. Là maintenant, quand vous appuyez sur Select, il y a vraiment le descriptif de chaque chose qui est...
Il y avait déjà avant, il est un
ouais,
peu plus fin.
Mais là
il
maintenant, ouais, mais il y a un truc qu'il n'y avait pas, c'est par exemple quand tu montes d'un point une compétence, c'est quand juste. Tu montes en niveau, tu vois toutes les influences que ça va avoir sur ces trucs cryptiques comme les dégâts de saignement, les résistances au saignement. On voit immédiatement l'influence. Je trouve que ça aide pas mal, ça, quand même, pour comprendre comment ce système fonctionne. Donc c'est vrai que là, je le trouve un peu plus accessible. Ça permet un peu de comprendre la logique du jeu. Alors, je te rejoins pour le level design, que je trouve vraiment, au final, assez proche d'un Demon's Souls. C'est-à-dire que c'est des segments qui sont bien construits en interne, mais qui, après, on passe ce truc complètement fou de Dark Souls 2, où petit à petit, on se rendait compte qu'en fait, c'était une énorme map 3D, avec des raccourcis qui se croisaient. Alors il y en a un peu hein, dans Dark Souls 2 aussi, mais il y a quand même pas la cohérence.
C'est pas
quoi.
Le même génie.
Ouais, il y a pas autant de cohérence.
C'est,
ouais.
Je trouve c'est pas. Moi, c'est vraiment les moments qui m'ont bluffé. Genre mais je suis là, en fait, je suis revenu là, c'est fou, j'ai débloqué cet accès.
Et puis t'as pas de loading, donc on t'a pas fait zapper, non, t'as vraiment suivi un chemin logique quoi dans Dark Souls 1. Là c'est vrai que c'est un peu plus faible. J'ai trouvé pour l'instant les combats de boss que j'ai fait, j'ai trouvé il y a plus de boss et la plupart je les trouve moins marquants. Que dans le premier, je dois dire pour l'instant.
Alors, peut-être qu'au niveau du design,
ouais, design surtout, ouais.
Des boss,
ouais.
Y avait moins de boss dans le premier. Moi, ils m'ont bien marqué, oui. Parce que c'est le premier que j'ai fait. J'ai commencé par Dark Souls, donc moi je tournais des, ouais. des nus. Après, y a aussi, si tu repenses, il y a des boss qui n'étaient pas non plus si incroyablement ça au niveau du design.
Et là,
après, au niveau du gameplay des boss,
ouais.
Moi je trouve beaucoup plus exigeant et beaucoup plus. Comment dire ça? Il a une particularité, ce jeu, c'est qu'il va vraiment t'apprendre à jouer par ce gameplay. Chaque boss va te montrer des nouvelles choses qu'il faut que tu maîtrises. Et là, je trouve qu'il est extrêmement bien maîtrisé, ce deuxième volet pour ça.
C'est vrai.
Vraiment, genre, là, écoute, Audi, va derrière le boss, reste bien là, tu risques plus rien.
Ouais, ouais.
Celui-là, par contre, non, c'est pas une bonne idée de rester trop près, prendre la distance. Enfin, il y a vraiment un petit côté. Chaque fois, on te montre un peu des nouvelles mécaniques, des nouvelles choses que tu peux faire. Et puis, c'est plus fin, à mon avis, que pour le premier pour ça.
Alors maintenant, je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit là. Franchement, mais je me pose quand même une question, c'est que maintenant c'est quand même le troisième volet entre guillemets de cette série des Souls, et moi quand même j'ai ressenti que la fascination de mon côté s'effritait un peu. C'est-à-dire que pas tant au niveau du jeu comme il est construit, c'est que le jeu garde tout son intérêt, il y a des nouveautés qui sont bien pensées, on va pas rentrer dans les détails, il y a plein de choses qui fonctionnent mieux qu'avant, mais voilà, je suis plus en terrain incognita total. Alors que je l'étais dans Demon's Souls surtout, parce que c'est le premier mois que j'ai fait, toi c'était Dark Souls. Dark Souls c'était aussi le cas, mais c'était déjà un petit peu moins. Et là je commence à sentir que ce sentiment de découverte absolue est un petit peu moindre quand même, personnellement.
Mais je suis d'accord, parce qu'en même temps, en gardant autant de mécaniques qui se ressemblent, on y gagne en plaisir de peut-être de retrouver un monde, un univers, c'est peut-être ça qui prend le pas.
Philosophie.
En philosophie d'univers, en ambiance, en émotion. David. mais c'est vrai que, au niveau de la pure découverte et de s'en prendre plein la gueule, je pense que ceux qui auront peut-être beaucoup de plaisir et qui auront beaucoup de chance, c'est ceux qui vont découvrir Dark Souls, la série Dark Souls, avec Dark Souls 2. Oui. Alors eux, je pense que.
Et c'est l'épisode idéal.
C'est l'épisode idéal pour ça.
Je pense aussi.
Vraiment. Donc voilà, pas trop tenter tout le monde. Effectivement, il a un petit côté Dark Souls 1,5. C'est vrai. Mais moi, c'est pas quelque chose qui finalement me dérange, parce que c'est sur d'autres points que je le cherchais.
Mais c'est un peu comme on disait avec Dragon's Dogma. Moi, je pense que la magie des Souls, de toute façon, tu l'auras au premier, tu l'auras plus intacte à ce point-là. Au suite, c'est comme ce que je redouterais avec un Dragon's Dogma 2. La magie de Dragon's Dogma 1 restera intacte parce que c'était le premier. On l'aura moins au suite, quoi. Donc je pense Dark Souls, c'est ça gentiment, alors ça n'enlève rien au plaisir, je serais prêt à payer 4 fois un Dark Souls 2 pour y jouer, mais voilà, c'est plus ce truc qui m'a pris aux entrailles autant que les premiers, ça c'est clair, par contre, en ce qui me concerne en tout cas.
Ok, bon, moi j'ai ressenti un peu pareil, donc je suis assez d'accord. Moi-même, depuis Demon's Souls, encore plus loin, j'ai l'impression qu'on m'a arraché un peu la série des mains, en fait. Quand je découvrais tout seul dans mon coin avec la version Hong Kong, j'avais un sentiment assez fou, et depuis j'arrive plus à retrouver ça. Donc c'est vrai que je les commence toujours, mais j'espère reprendre celui-là. J'ai joué juste 2-3 heures. Enfin, peut-être un peu plus, mais j'espère reprendre. Mais j'ai de la peine, en fait. J'ai vraiment de la peine. Et il y a un truc aussi autour qui m'énerve, c'est la façon dont on en parle, en fait. Tous ces gens qui se touchent la nouille en disant « Ah, je suis un homme parce que je joue à Dark Souls », je trouve ça un peu... Voilà, quoi. Je sais pas si le jeu est tant... Si c'est ça vraiment son point fort, en fait. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux difficiles. C'est pas forcément ça qui rend Dark Souls exceptionnel. Il y a d'autres choses. Son système de combat, son système... Enfin, il y a plein de systèmes passionnants, mais je pense pas que la difficulté est le point...
C'est maintenant qu'on parle un peu avec la difficulté sur les forums qui disent « Oui, c'est un jeu... » Ils se font un peu rentrer dedans. Maintenant, je pense qu'on en est un petit peu revenu quand même, en tout cas dans les comités de joueurs.
Hein. Ouais, plus dans la... Je parlais dans la critique, en fait.
Oui, alors la critique,
dans
la critique, ouais.
Et puis dans les... Voilà, quand on écoute j'écoutais Silence on joue, par exemple, où ça a été 15 minutes de branlette sur le fait que c'est difficile. Ah, voilà, quoi.
Alors que je trouve qu'on ne ressent plus trop. Enfin, c'est difficile. Le jeu est difficile, bien sûr, mais...
Il est vraiment clairement difficile, mais moi, j'aime pas les jeux difficiles.
Ouais.
C'est vidu. Voilà. C'est quelque chose que ça me gonfle.
C'est pas sa caractéristique.
Un roguelite ultra difficile, un Super Meat Boy, ça m'intéresse pas. Donc là, c'est clairement qu'il y a d'autres choses qui me plaisent dedans. Alors oui, je meurs, tu recommences, en même temps, il y a un côté de découverte, exploration du level design du jeu et du gameplay, et vraiment d'apprentissage, que moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment un côté de commencer à apprendre vraiment à maîtriser ce gameplay jusqu'au fond pour réussir à passer ces boss ou ces zones. C'est ça qui est intéressant. C'est pas un jeu qui demande du skill, vraiment, dans le sens de de faire 300 actions par minute comme un StarCraft ou comme ou d'avoir des réflexes de fou. C'est juste qu'il faut apprendre à connaître.
Il faut savoir quel contrat de lecture tu vas signer quand tu rentres dans Dark Souls. C'est clair, si tu viens pour jouer à un Skyrim, ben, tu vas trouver le jeu horriblement dur et puis te dire « Oh mon Dieu, je suis un guerrier parce que j'arrive à jouer à ce jeu ». Mais quand tu sais, quand tu acceptes un peu de signer le contrat de lecture, c'est
bien sûr, c'est non, c'est pas plus difficile qu'un bon Mega Man 10 ou qu'un, voilà, avec qui je trouve qu'il partage pas mal de choses, des patterns, des trucs comme ça. Et voilà, c'est pas... Ouais.
Zelda 2,
voilà, enfin, il y a beaucoup de, ouais, beaucoup de jeux déjà comme ça, quoi. Donc, c'est... Bref, on a fait un peu le tour. Il y a quelque chose d'autre, quelqu'un a quelque chose à dire ?
Ben non, malheureusement, parce que
alors, tu n'y as pas joué.
Alors, mais moi, c'est une catastrophe parce que moi, j'en ai jamais touché
à
la série du tout. Je, ouais, je sais, vous pouvez crier, huer, mais vous avez raison. Mais visiblement, le 2, ça a l'air d'être assez sympa à commencer. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est bon. Je me cache derrière mes enfants hein, parce que je vais dire que c'est de leur faute. Je peux pas jouer à des jeux violents à côté d'eux, donc voilà. Ouais. Non, mais c'est tout simplement parce que effectivement, un peu comme ça, moi les jeux trop durs aujourd'hui, moi de crever 40 fois, ça me. Et
pourtant
ça
lui
me déprime.
Il joue comme un peur. Hein,
ouais, mais c'est ça. C'est peut-être ça aussi qui fait que je vais peut-être m'y intéresser un petit peu plus parce que. Mais c'est vrai que moi, je sais qu'il y en a qui tripent quand ils meurent parce qu'ils doivent passer.
Dans alors, Dark Souls, c'est pas vraiment
non,
du poil de cul.
Pas
c'est...
Poil
non,
de
non,
fion.
Non, pas du tout.
Et
c'est
je me suis
juste...
dit, parce que si à chaque fois je dois péter ma manette et ma télé.
Bien que Greg a l'air de trouver. Que...
Ah,
pour moi, c'est toujours le même défaut. Ça, par contre, ça n'a pas été corrigé. C'est qu'il y a cette injustice qui me rend toujours un peu fou. C'est on t'applique des règles très strictes à ton personnage et à ton joueur. Et puis les ennemis n'ont toujours pas. Enfin, ces règles sont très peu appliquées aux ennemis. Ouais, ça me gonfle encore. Putain. En fait, c'est tout con. J'ai l'exemple, moi, qui m'en toujours fou. C'est qu'en gros, quand tu tapes dans Dark Souls, si t'as un mur, si t'as un truc qui intercepte ton épée,
ouais.
Tu vas rebondir, ce qui est très bien. Et ce qui serait fantastique, c'est que ça soit la même pour les ennemis.
Il y a un boss qui va te rendre fou alors.
Voilà. Bah oui, mais comme le démon de Capra qui m'a rendu fou dans Dark Souls, mais ce qui me rend fou, c'est que là, les ennemis, non, les ennemis, ça traverse.
Ah,
alors que,
d'accord.
Mais là, je pense que pour moi, on obtiendrait peut-être un des jeux les plus géniaux de l'histoire de l'humanité si tu pouvais exploiter ça chez les ennemis. C'est-à-dire que tu tires un gros tac à une monstre épée dans un couloir, toi, tu te bats avec une rapière et tu la tires pour qu'il soit emmerdé et encombré. Enfin, voilà. Mais putain, faites-le.
Ouais, c'est juste, c'est très juste.
Ouais, non, c'est très bien. Bah écoute, c'est un jeu, effectivement, aujourd'hui, j'en entends énormément parler. Et
pour faire peur,
pour faire peut-être. Ouais,
c'est le croquis-tête, mais plutôt t'oses pas t'y attaquer parce que.
Mais
parce
non, mais
boules.
Complètement, mais c'est ça.
Alors
et
que c'est
j'avais
pas...
un petit peu cette crainte avec Dragon Dogma, et puis.
Puis
finalement, non. Ouais, j'ai commencé tranquillement, mais c'est bon. Après, comme je dis, j'ai. Mes heures de jeu, moi, elles sont. C'est le soir, quand je suis tout seul, devant ma télé.
Vous êtes deux, sur ce cas-là.
Ouais, exactement. Ouais, quand on a des enfants, on peut difficilement éventrer des gens.
Du coup, on va transiter sur un jeu. Non, c'est pas ça. Mais du coup, on va transiter sur un jeu qui est justement plus considéré plus light, plus cool, avec Infamous Second Son, que moi, je vais juste dire un mot, parce que je l'ai terminé avec délectation. J'ai beaucoup aimé. Chaque fois je me fais avoir parce que je l'aborde en me disant encore un jeu, voilà, c'est un de ces jeux un peu show off, un peu un peu triple A bancal, et puis je vais rien y trouver, et chaque fois je l'ai fini, quoi. Infamous, tous, je les ai tous finis jusqu'au bout, je fais tout ce qu'on peut faire, et je pense qu'il y a une vraie science du level design en monde ouvert, en fait. Les mecs d'Infamous savent comment faire un monde qui est plaisant à explorer, avec un personnage qui a des pouvoirs, qui a une façon de se déplacer, qui exploite pleinement le level design. Et là, ils ont poussé le vice, mais tellement loin dans ce dernier, parce que normalement, il y a un groupe de pouvoirs avec une variante, si on est gentil ou méchant, plutôt feu ou plutôt électricité dans le dernier, je crois. Et là, ils ont poussé le vice jusqu'à avoir 3, enfin 4, parce que le quatrième compte à peine, mais vu qu'on le débloque à la toute fin du jeu. Mais il y a 3 gros groupes de pouvoirs avec des moyens de se déplacer
vraiment des logiques de déplacement vraiment assez différentes et des logiques de pouvoir même dans combat complètement ouais les uns ne remplacent pas les autres. C'est pas que plus on avance dans le jeu plus les nouveaux pouvoirs qu'on débloque sont puissants et remplacent les précédents. Non, chacun garde sa validité mais est valide dans certaines situations et surtout pour ce qui est du déplacement de nos préférences en fait. Il y en a plutôt pour se déplacer au niveau du sol, plutôt en l'air, certains permettent de faire du vol stationnaire, d'autres pas, et ils ont crafté la ville, parce que là j'ai envie de dire crafté tellement bien avec les possibilités comme dans les autres. Moi j'avais peur que j'avais vu qu'on pouvait monter automatiquement en haut d'un immeuble, alors je me suis dit on va perdre ce qui était dans les autres Infamous très bien, c'est qu'il fallait vraiment apprendre à se déplacer correctement sur les toits et qu'au début on tombait et il fallait de nouveau escalader l'immeuble, donc on perdait du temps, il y avait vraiment cette sanction, et à la fin on savait naviguer, on savait lire les routes sur les toits pour réussir à naviguer vite. Et là en fait ça n'a pas du tout perdu ça, parce que oui on peut monter directement mais pas partout, et il y a certains pouvoirs qui permettent de monter directement sur les immeubles, mais c'est une espèce de course à la verticale sur un mur, mais suivant s'il y a des avant-toits ou des fois on va pouvoir être gêné, et c'est aussi quelque chose, on va pas pouvoir avec ce pouvoir voler ou sauter très très loin, donc il faut choisir en fait, et c'est génial parce qu'on se rend compte que toute la ville, il y a déjà deux zones, la première qui utilise, où il y a beaucoup de possibilités de facilement se déplacer avec le premier pouvoir pour apprendre le premier, et la deuxième va partir sur les deux autres pouvoirs et complexifier encore l'utilisation du premier qu'on maîtrise bien. Donc c'est vraiment juste une jouissance absolue d'apprendre à se déplacer dans cette ville, et du coup on a envie de tout faire, et on a envie de faire toutes ces missions annexes qui sont certes un peu répétitives, il y en a 6-7 qui sont toujours les mêmes dans chaque quartier qu'il faut toujours les faire, alors ça je peux tout à fait concevoir qu'on les trouve répétitives, mais c'est un tel plaisir à se promener, c'est un tel plaisir d'avoir cette maîtrise, et c'est surtout pas entravé par les missions solo, enfin les missions scriptées où on va à un point classique à la GTA, mais là on nous balance pas une cinématique de 3 minutes avant de nous mettre dans la mission, il y a un gars qui parle dans notre oreille, enfin dans le téléphone, et on peut pendant ce temps-là continuer déjà à se déplacer, aller vers les objectifs, on est sans arrêt en contrôle du personnage, et du coup c'est vraiment hyper agréable, et en plus de ça ils ont fait un truc que pour moi était la faiblesse des anciens Infamous, c'était les combats qui des fois manquaient un petit peu de diversité, de possibilités d'angle d'attaque, et là vraiment avec ces trois pouvoirs on a vraiment énormément de possibilités, et surtout il y a une des fonctions qui est un peu comme des gros missiles, pour le premier c'est un gros missile qu'on tire, qui est limitée, donc il faut chaque fois aller la repomper sur les sources, et des pouvoirs, des néons pour le pouvoir de néon, de la fumée pour le pouvoir de fumée. Et puis du coup pendant les combats on est souvent à court, donc pendant les combats on doit jongler entre les différents pouvoirs et du coup réadapter sa stratégie en permanence. Moi j'ai trouvé ça excellent, je me suis marré, c'était vraiment top, donc je peux que chaudement conseiller parce que c'était très très chouette.
Beau, ça donne envie. J'ai pas de PS4, attention, je vais en acheter
une. Tu vas en acheter une?
Ouais, non, mais ça donne très envie, ça donne très envie. Surtout que c'est vrai que les Infamous c'est toujours un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais c'est jamais des jeux qu'on était juste plus loin que ça. Enfin, ça a toujours été des jeux.
Alors avec celui-là, ça reste là. Hein.
Mais ça a l'air de. Ça a l'air d'être. Mais déjà rien qui c'est là.
Voilà. C'est déjà très. C'est pas un grand jeu. C'est pas. Ouais. C'est pas. On va pas le mettre en face de Dark Souls ou de. Voilà. Oui. C'est pas de ces jeux qui bouleversent le jeu vidéo. Mais je pense qu'ils ont.
Mais ils continuent à avancer en tout cas.
Voilà. Ils continuent à avancer. Ils ont une bonne idée. Mais des fois, j'aimerais juste qu'ils soient plus couillus, parce qu'on a l'impression qu'ils ont bien saisi cette mécanique de monde ouvert et que toutes ces missions scriptées, c'est peut-être pas l'idéal et que la vérité se situe ailleurs. Et des fois, j'aimerais presque qu'ils aillent plus loin.
Ouais. Mais moi, il y a des trucs. Alors cette personne, il y a des trucs au niveau de la DA que j'aimerais bien aussi qu'il faudrait qu'ils avancent pour moi au niveau de la DA dans
oui,
certains
aussi,
trucs.
Oui, oui, parfaitement. Qui est un peu fadasse. Ouais, ouais. Oui,
un peu sunny.
Oui, exactement. Un peu sunny, tout à fait. T'as raison.
Je crois que le côté répétitif calme pas mal de monde. Moi, j'ai discuté avec d'autres personnes à droite à gauche qui me disaient « Ouais, c'est sympa, mais tu tournes en rond, tu fais tout le temps la même chose. » Je dis pas que c'est le cas dans celui-là.
Mais non,
mais ça a freiné plein de gens de dire « Ouais,
mais je pense que
c'est un jeu qui demande une maturité de joueur. »
Ouais, clairement, non, mais je dis pas que c'est justifié. Peut-être pour le plus grand public, parce que c'est quand même un triple A et puis un machin qui tout le monde attendait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur PS4 qui arrivent ces temps. Enfin, comics sur Xbox One, mais... et du coup, ben peut-être qu'ils avaient été un petit peu plus long là-dedans.
Mais je pense que c'est juste, t'as raison. Mais je pense que c'est. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé par exemple le premier Assassin's Creed, tu vois. Donc, cette répétitivité m'a pas posé problème dans
la
mesure.
Ça m'a clairement posé problème.
Où j'aimais cette. Parce que j'aimais la mécanique de. Là, encore plus dans Infamous, j'aime comment fonctionne le personnage. Enfin, ça suffit à lui-même. Les mécaniques du jeu se suffisent à elles-mêmes sans
que j'ai besoin de diversité scénaristique ou qu'on m'apporte des missions plus scénarisées ou des choses comme ça, à la limite il n'y aurait pas eu de scénario, ça allait très bien. Enfin, je dis, voilà.
Parce que tu disais que tu es plus joueur que spectateur, donc c'est déjà une bonne
voilà,
chose,
c'est
parce
ça.
Que dans certains jeux,
ça
peut penser
à Crackdown aussi.
Voilà, exactement. Moi, ouais. Tout à fait.
Moi, j'ai une petite question quand même pour toi, parce que la fois où je t'ai vu y jouer, pendant je sais pas, une petite demi-heure comme ça, t'arrêtais pas de râler. Vraiment, t'arrêtais pas de dire, mais c'est quoi ce machin, ces combats, j'arrive pas à les
mais
tuer.
C'est comme tous les Infamous au
non,
début.
Non, mais c'était un grand moment où vraiment tu râlais tout le temps. Genre, mais c'est quoi cette mission, photographier des trucs, je m'en fous, laissez-moi jouer.
Oui, oui, oui. Bah
et
oui.
Qu'est-ce qui a changé
ouais,
vraiment
mais parce que justement, le début est très. Vous m'avez
rien,
vu
c'est
jouer
Sandro,
le début
il
du
râle.
Jeu. Et ils amènent les trucs au début. Alors, le pire, c'est le début. La première interaction que t'as avec le jeu, tu dois faire un tag un peu en quick time. C'est enfin. Enfin, voilà, j'étais. Mais comme d'habitude, j'étais horrifié au début. Et ils ont toutes ces espèces de lourdeurs de blocs de triple A qui sont obligés de mettre, qui sont là, qui sont lourdes, qui sont chiantes, qui sont agaçantes. Mais une fois qu'on avance un petit peu dans le jeu, les deux, trois premières heures, après on commence à être un petit peu à avoir la paix et à juste s'occuper de déblayer toutes ses missions dans les quartiers, faire ses missions, etc. Et à partir de là, ça devient vraiment cool. Ouais.
Et moi, je pense surtout, Sandro, t'es un petit peu comme moi à ce niveau-là. Quand le jeu te fait râler, c'est pas forcément négatif. Tu vois, c'est qu'il te prend aux tripes. Et c'est que tu vas essayer d'aller pousser le machin jusqu'au
non,
bout.
Non, mais là, il a raison. Non, là, il a raison. Je râlais sur
merci
des
choses. Merci de casser
des choses vraiment très chiantes.
Okay,
non, il avait raison. Non, mais c'est vrai, je veux pas te.
Non.
Voilà, mais c'est vrai, là, il a raison.
Parce râlais. Que moi, effectivement, généralement, quand un jeu m'énerve, c'est que le jeu, il me plaît, en fait. Mais c'est ça, mais finalement, je crois que tout
ou
à
Beyond Two Souls.
Ouais, non, un peu, mais là je vais râler. Il y a la façon dont tu râles. Putain, mais je vais y arriver, saloperie de niveau. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Parce que tu viens de claquer 80 balles pour un jeu tout pourri. Mais ouais, non, c'est. Enfin voilà, moi je suis comme ça. Généralement, quand je m'acharne sur un jeu, je m'énerve sur un jeu, c'est qu'il me plaît. C'est qu'il y a quelque chose. Alors bon, bah, je pensais que c'était ça. Non, visiblement, c'était juste pourri, en fait.
Non,
au début.
C'était juste, voilà, le début. Ce,
okay.
Ce que je râlais, je le maintiens. C'était chiant.
C'était chiant.
Ok. Est-ce qu'on dit un petit mot quand même sur Towerfall avant de passer à la suite?
On peut résumer à... C'est trop bien, jouis-y.
Oui,
on peut à limite s'engager pour... d'ici au prochain podcast, se faire une soirée
Towerfall et en parler un peu plus.
Ouais,
et
puis qu'on y joue tous.
Bonne idée, ouais, c'est
comme
une
ça,
bonne idée.
On pourra tous parler d'un joueur à bonne humeur.
On va faire ça, ça marche. Alors bon, on va passer alors du coup à la dernière rubrique, la rubrique à Seb. Voilà. Alors à tout de suite après un petit morceau de musique.
Thank you.
Alors Seb, retour de ta rubrique initiée la semaine passée.
Alors ce soir, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle The Resistance, qui est un jeu qui est sorti en 2010 en anglais et puis qui est sorti en 2012 en français en fait. C'est un jeu qui est déduction, je dirais, où le but c'est de découvrir deux équipes en fait, des espions et puis la résistance. Et le but c'est plus ou moins de découvrir qui est quoi dans le jeu, qui pour permettre à son équipe de gagner.
Un peu à la manière du loup-garou en fait.
Première, une fois de plus, j'ai toujours pas joué, même si Greg nous en a conseillé.
Moi, je l'ai acheté. Enfin.
Tu l'as acheté et tu y as joué?
Non, pas encore. Je viens de l'acheter avant-hier. Je me suis dit, je peux pas ne pas, comme Greg avait dit, n'y avoir jamais joué. En tout cas, est succinct.
Ouais, je crois qu'il y a pas grand chose.
Ouais, c'est très simple en fait.
Sur The Resistance, il y a pas grand chose non plus.
Ok.
Donc, c'est un jeu qui est édité par Edge et puis l'auteur c'est Dan Erskridge. C'est un jeu pour 5 à 10 joueurs. Et puis qui prend à peu près 30 minutes, donc c'est pas trop long. Au niveau du matériel, donc on reçoit chacun au début de la partie une carte qui va définir si on est espion ou bien résistant, mais donc bien sûr personne ne sait qui sont les autres.
Loup-garou.
le début c'est clairement voilà. Comme le loup-garou, vraiment.
Et puis après on a des petites pièces qui nous permettent de voter si on est pour ou contre les missions, etc. Et puis si les missions sont des succès ou des échecs. Donc voilà, le matériel est vraiment hyper basique, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc le but du jeu, en fait, il y a 5 missions durant une partie, et le but c'est d'en gagner 3, soit pour les résistants, soit pour les espions. Ou bien pour les espions, il y a une possibilité sur certaines un moment du jeu, en fait, on doit voter pour une équipe qui va partir en mission. Et s'il y a, au niveau du vote, 5 refus à la suite, les espions ont gagné la partie, définitivement. Donc voilà. Oui, Sam.
C'est un peu un moyen d'éviter que les débats s'éternisent pendant des heures et finalement on dit bon, on y va, etc. Donc ces votes,
absolument.
C'est un grand changement par rapport au loup-garou qui peut vraiment traîner énormément à chaque tour pour les discussions de qui est qui.
D'après ce que j'ai entendu par rapport au loup-garou, c'est que tout le monde joue jusqu'à la fin de la partie. Ce qui n'est pas apparemment le cas du
loup-garou. Dans le loup-garou, tu peux mourir une fois que tu es découvert, c'est fini.
Après tu attends et tu regardes les autres jouer. Quoi. Donc,
y a pas ce côté-là. Après, il y a eu des extensions où après tu es une sorte de fantôme aussi. Et tu restes actif.
Pas au courant.
Tu restes actif d'une manière subtile.
Ok. Il faudra vraiment qu'on y joue.
J'ai pris que la base. Tu m'avais dit qu'après ça devenait vraiment.
Ça devient un peu n'importe quoi. T'as bien fait de prendre la base. De toute façon, faut essayer avec la base déjà. Mm-hmm.
Donc, au début de la partie, donc on va distribuer donc ces cartes pour savoir qui est espion, qui est résistant. Et puis ça varie le nombre d'espions dans la partie en fonction du nombre de joueurs à laquelle on joue. Ça varie entre 2 et 4 en fait. Donc, une fois que c'est fait, tout le monde va fermer les yeux et il y a les espions à un moment X qui vont dire on ouvre les yeux. Juste pour savoir qui est espion. Donc les espions se connaissent durant la partie, mais pas les résistants. Et puis après, on referme les yeux et tout le monde les rouvre.
Je vois des sourires.
Oui, vraiment, ça ressemble beaucoup.
Des sourires terriblement
narcos.
C'est un mode.
Pas besoin de préciser qu'il faut que tout le monde joue le jeu à ce moment de la partie, parce que sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Mm-hmm. Et voilà. Ensuite, il y a un meneur qui est le premier joueur qui va argumenter. Donc on peut vraiment parler durant la partie de tout ce qu'on veut. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est montrer sa carte si on est espion ou résistant. Et puis, on va lancer donner donc aux gens, dire voilà, je vais lancer lui en mission, je vais dire que lui va partir en mission, etc. Donc, de nouveau, le nombre de personnes qui partent en mission, dans la première mission, dans la deuxième, etc., ça varie en fonction du nombre de joueurs et de quelle mission c'est. Et puis après, pour ça, les gens vont voter une fois qu'on a dit, c'est ces deux personnes qui vont aller dans cette mission. Certaines personnes vont dire non, moi je suis pas d'accord, moi je suis d'accord, donc on va voter. Si le vote est accepté, c'est ces gens qui vont partir pour faire la mission. Et puis, si c'est refusé, à ce moment, le meneur change de main. C'est une autre personne qui va décider d'en lancer, justement, qui va être quoi. D'accord ? Donc, voilà. Si le vote, il est égal entre les oui et les non, c'est comme si c'était refusé, en fait. Donc, si, par exemple, quand on joue à 5, il y a 2 espions, c'est quand même difficile de faire refuser le vote par rapport à ça, parce qu'on est un de moins, donc il n'y a pas d'égalité possible.
Ça sent le vécu.
Pardon ?
Ça sent le vécu.
Non, du tout. Donc voilà, une fois que les personnes, que la mission donc, est partie, on reçoit chacun une petite carte, c'est marqué accepté ou refusé. Enfin, mission accepte, échec ou. Je ne me rappelle plus le
échec,
terme.
Échec, succès.
Oui, échec, succès, merci. Et puis, donc chacun va voter ce qu'il veut. Donc si on est résistant, on a tout intérêt à accepter la mission pour gagner le point sur cette mission-là. Et puis, si on est espion, ça dépend un peu où on en est dans la partie, de mettre que la mission est un échec ou que la mission est un succès.
Il faut juste savoir que le reste des joueurs ne sauront pas qui a mis quoi.
Voilà, tout à fait. Donc après, toutes les cartes, une fois que chacun a voté avec sa carte cachée, on les mélange et puis on les révèle une après l'autre, mais on ne sait pas qui a voté quoi. Donc voilà. Par contre, il y a un seul échec, la mission est loupée. Quoi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une majorité ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis après, bon, on recommence la deuxième partie, etc. C'est clair, le but, c'est de voir, en mettant qui dans les équipes, etc., en avançant, de voir, c'est de deviner qui est espion, qui ne l'est pas. Mmh. Alors ça part dans des grands débats. Je pense qu'une partie avec Sandro et Dorothée serait...
Je pense
très très sympa.
Oui, parce qu'il faut savoir, j'ai un passif avec la femme de Seb assez lourd en fait.
Donc,
nous sommes deux extrêmement mauvais joueurs, donc
si peu. Je pense qu'il y aurait des débats très importants. Enfin, tout le jeu est vraiment basé, moi je trouve, sur vraiment les discussions qu'il y a entre qui va être choisi pour faire l'émission. Essayer d'argumenter, dire non, mais moi je suis vraiment résistant, etc. Enfin, puis de croire, mais comme on ne sait pas non plus qui sont vraiment les autres en tant que résistants. C'est vrai que c'est pas forcément évident de voir.
Et du coup, donc, vous trouvez quoi par rapport au loup-garou? Parce que moi, j'ai fini.
Alors, moi, j'ai pas joué au loup-garou. Sam, t'as joué?
Moi, j'ai joué aux deux.
Et
donc, j'ai joué au loup-garou il y a quelques temps. Loup-garou, à l'époque, je trouvais ça extrêmement chouette et novateur. C'est vrai qu'il y a plein de défauts. Le défaut, c'est que quand une fois t'es éliminé, c'est fini. Bon, en tout cas, la version de base. Et du coup, franchement, tu peux tourner les pouces pendant une heure et demie. Super.
Ah ouais, les parties sont longues.
Ah bah, si tu joues à 10, 12, 15, ça peut être vraiment long. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Justement parce que les discussions sont sans fin des fois, genre non on n'est pas d'accord ou non on est d'accord. Il y a aussi un système de vote, sauf erreur, mais alors, je me suis vraiment de souvenir, c'était long, très très long, et puis ça manquait un peu de rythme.
Oui, un système de vote, ouais. Moi c'est marrant, j'en ai fait pas mal aussi, à beaucoup, une dizaine, c'était 20 minutes la partie à chaque fois. Enfin,
ok, alors moi j'ai vraiment de souvenir, c'était bien plus long que ça.
Tu jouais avec des lourds?
Je jouais avec des lourds, des gros lourds, clairement. Et là, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que même si on sait, on sait jamais à 100% quelqu'un est un espion ou pas, on peut avoir des doutes très très forts, en même temps, il peut très bien jouer.
Ouais, mais il n'y a aucune certitude,
Aucune certitude, à aucun moment, tu peux pas. Tu n'as pas assez de tours en fait, pour réussir à définir avec certitude que c'est un espion. Donc ça reste intéressant. Et puis, il n'y a pas le côté d'élimination. De ce côté, c'est juste de ne pas aller prendre en mission pour que les missions soient des succès. Mais la personne va toujours être là, elle va toujours foutre la merde avec ses votes, elle va toujours faire... vraiment mettre le dawa. Il y a vraiment un côté de climat de suspicion monstrueux qui se met en place. Il y a des gens qui mentent plus ou moins bien, mais c'est clair que tu sais pas du tout mentir. Moi, c'est un peu mon cas. Donc, je me suis retrouvé avec Seb une fois, les deux. J'ai essayé de faire ce que
on
pouvais.
On a failli gagner,
Mais on a quand même failli gagner, n'empêche. Donc, même si tu n'es pas très doué pour ça, tu arrives quand même à suffisamment induire les gens en erreur. Et c'est assez niveau, c'est vraiment clairement un jeu social dans ce sens-là où tu marres vraiment bien et puis tu apprends aussi un peu à connaître les gens différemment. J'ai eu beaucoup de plaisir.
Ouais, c'était vraiment un jeu très sympa qui anime beaucoup la soirée, je trouve. Pour autant, c'est peut-être la limite du jeu, que les gens qui jouent le jeu. Si on joue avec des gens qui n'ont pas envie de se mettre dans le truc et puis vraiment de rentrer dans leur personnage, entre guillemets.
Ouais, c'est un peu jeu de rôle, quoi.
Ouais,
il faut que les gens jouent un peu leur
rôle. C'est ça, c'est vrai que si tu joues avec des gens qui sont non-joueurs, puis qui sont peut-être, on joue avec des gens qui ne connaissent pas, ils sont peut-être timides ou ce genre de trucs, puis qui ne rentrent pas dans leur personnage.
Ouais.
Je pense que ça devient vite assez plat par contre. Okay, je pense que c'est peut-être un peu le limite du truc. Quoi. Mais sinon, ça anime bien le truc, je pense. Qu'il y a...
ouais, ok, il y a
et puis, très bonne soirée.
Je trouve qu'il y a quand même un côté un peu plus stratégique quand même dans le choix de qui part en mission chaque fois par rapport au meneur que c'est, etc. Donc il y a quand même un côté, on ne peut pas dire que ce sera telle personne qui sera l'espion, mais on peut quand même réduire les possibilités. Genre, il y a 80% de chance que ce soit lui, etc.
Mais ça, c'est comme dans le loup-garou pour moi alors.
Il y a aussi cet aspect-là?
Ah oui, complètement, ouais. Au petit à petit, tu fais de la déduction vraiment par rapport aux probabilités. Il y a une déduction. C'est là où je tiquais avant, où tu me disais, ouais, on n'est jamais sûr. Dans le loup-garou, tu peux vraiment être sûr. Au bout d'un moment, tu peux vraiment, si la personne a fait des 2-3 erreurs, ou si toi, tu arrives à lire un peu le jeu, comme le poker, quoi. Tu connais un petit peu ce que les gens ont en main. Parce que bon, c'est vrai que le loup-garou, tu as la version de base. Maintenant, je ne sais plus, moi, si j'ai fait la version extrêmement de base, si j'ai fait avec une petite extension, et puis ou bien avec une troisième. Mais je crois que j'ai fait qu'avec la première extension, où il y a suffisamment de petites subtilités, où tu sens que le jeu, effectivement, a demandé à être affiné. Et puis, ils ont apporté des petites subtilités, des petits pouvoirs, des choses. Je me rappelle particulièrement de la petite fille qui peut. Ça, c'est juste fantastique. Dans le loup-garou, elle peut entrevoir quand tout le monde ferme les yeux. Il faut savoir que dans le loup-garou, donc, c'est le même principe, tout le monde ferme les yeux, sauf les loup-garous. Donc les deux loups-garous ont les yeux ouverts au moment de cette fameuse phase de décision et ils désignent qui ils vont éliminer en fait. Donc ils doivent le faire silencieusement. Et dans les nouveaux personnages, dans les extensions, t'as la petite fille qui, elle, peut
parce que voilà, c'est une petite fille, elle peut entre-ouvrir les yeux, mais s'il si voit qu'elle entre-ouvre les yeux, forcément,
elle, il la bute. c'est clair.
Ouais. Donc voilà, il y a tous ces jeux que je trouvais assez sympas dans mon garou, mais qui ont l'air tout à fait valables pour le jeu que tu décris, en tout cas.
Ce qui est sympa, là, c'est qu'aussi, à la fin, quand tu fais ton vote, même si t'es espion, tu peux voter pour faire réussir la mission pour éviter de te faire cramer aussi tout de suite. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe, on a un peu vu, on a fait pas mal de parties. À la première mission, il y a rarement un échec, même s'il y a un espion dans l'histoire, parce qu'il a pas envie de se faire cramer. Après, si par exemple, il y a trois personnes qui partent dans la mission sur les cinq joueurs, tu sais quand même pas sur les trois qui c'est. Tu sais qu'il y en a un, mais lequel ? T'as aucune idée, quoi. Donc, Donc non, c'est...
Il y a tout aussi intéressant de communication, on va dire, non-verbale entre les espions, parce que typiquement, t'as une mission et trois personnes qui partent, si t'as deux espions dedans, ben, le but, c'est qu'un mette un échec et pas les deux. Sinon... ils sont fortement
mais comme t'as pas le droit de te parler, c'est vrai qu'on a eu le cas une fois avec ça, on s'est retrouvé les deux dans la même mission et on s'est dit ben qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y en a, si on a, si on met les deux échecs, on sait que voilà, ça va être un peu plus chaud. Donc ouais, très intéressant.
Ok, ben merci pour cette petite présentation. Et puis ben
prochaine fois Quantum, promis.
Ah cool, promis, c'est gentil, Quantum. Merci beaucoup. Et puis bah du coup au mois prochain pour le premier podcast de l'année, enfin de notre année suivante.
L'an plus 1.
L'an plus 1, voilà. Bon, bah alors.
Avec David comme présentateur, peut-être.
Avec David comme présentateur, effectivement. Ou Yannick, on verra si Yannick nous fait le bonheur d'être là.
J'espère que je serai prévenu assez tôt comme ça. Je
mais t'inquiète pas.
Tu as prévu des chroniques d'Ultima aussi, non ?
Non, mais. Non, de World of Warcraft, mais on veut pas.
Pourquoi ?
Parce que je suis raciste. D'accord. Je t'ai jamais dit ça. Bon. Alors, au mois prochain, et merci messieurs.
Bonne soirée, à bientôt. Bah,
bonne soirée.
Merci à tous. Toutou. Come again soon.